Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 25 août 2025. Et pour cette chronique du groupe Fred Zeller, bien, nous nous retrouvons depuis le studio de Radio Libre en Périgord, puisque la semaine dernière, c'était une émission un petit peu particulière que je vous avais proposée. Depuis, en direct bien sûr, mais depuis le site sur lequel se tenait le congrès de la Fédération nationale de la libre pensée, ou plutôt le site dans lequel allait se tenir dès le lendemain ce congrès, dont je reviens et qui a été un congrès important. J'y reviendrai dans de prochaines chroniques et je pense à travers quelques interviews de l'équipe nouvelle qui est maintenant à la direction de la Fédération nationale de la libre pensée. J'avais prévu pour cette chronique vous faire part d'un article de l'agence Média Palestine suite à l'assassinat du journaliste d'Al Jazeera, Anaïs Al-Sharil. Et malheureusement, juste au moment où j'arrivais, j'ai appris cette nouvelle à nouveau des journalistes qui ont été tués dans une attaque de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et je vais simplement vous lire le communiqué de France Info sur cette question qui ne fait que confirmer la gravité de la situation dans la bande de Gaza et ces inadmissibles assassinats qui se passent aujourd'hui dans la bande de Gaza avec, entre autres, en particulier, la presse prise pour cible. Guerre dans la bande de Gaza. 15 personnes, dont 4 journalistes, tuées dans des frappes israéliennes sur un hôpital. Donc c'est selon la défense civile de Gaza. Et là, il y a parmi les 4 journalistes un journaliste de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, donc qui a donc été tué. Ce qu'il faut savoir, donc c'est le communiqué de France Info. Au moins 15 personnes, parmi lesquelles 4 journalistes, ont été tuées dans des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, a affirmé le porte-parole de la défense civile de l'enclave palestinienne, Mahmoud Bassal, lundi 25 août. Un peu plus tôt, le service de presse du gouvernement gazaoui, dirigé par le Hamas, a annoncé la mort de 4 journalistes. La chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera a affirmé qu'un de ses journalistes, Mohamed Salama, avait été tué. De son côté, l'agence de presse Reuters a rapporté la mort d'un de ses collaborateurs, Hussam al-Masri. Donc, et bien sûr, France Info appelle à suivre les informations en direct sur France Info. Et Reporters sans frontières appelle à la fin des ciblages de l'armée israélienne contre les journalistes. Il faut absolument qu'Israël donne des garanties pour la sécurité des journalistes et ouvre largement la couverture du conflit. C'est une citation a lancé lundi matin sur France Info Thibault Boutin, directeur général de Reporters sans frontières. Mi-août, l'organisation avait dénoncé des assassinats ciblés de journalistes dans la bande de Gaza après une frappe israélienne qui avait tué 6 reporters, dont le correspondant d'Al Jazeera, Anas al-Sharif. Et donc dimanche, il y a eu au moins 42 morts, toujours d'après la défense civile, donc qui ont été tués par des frappes et des tirs israéliens dans le territoire palestinien. Voilà, eh bien, l'armée israélienne qui a été sollicitée n'a pas commenté dans l'immédiat. Donc voilà, ça c'était les informations données par France Info. Elles sont importantes et extrêmement inquiétantes. Et je vous lis donc maintenant l'article publié par l'agence Média Palestine. Donc, article antérieur à ces dernières infos que vient de donner France Info. Et c'était donc suite à l'assassinat de plusieurs journalistes, dont le journaliste d'Al Jazeera, Anas al-Sharif. D'après le syndicat des journalistes palestiniens, 238 journalistes sont morts depuis le 7 octobre 2023 alors qu'ils couvraient l'actualité du génocide. Il faut donc en rajouter 4 avec l'information qui vient de nous parvenir. Ce chiffre terriblement élevé fait de cette guerre le pire conflit jamais connu pour les journalistes, d'après un rapport de The Watson School of International and Public Affairs publié en fin d'année dernière. La plupart du temps, les journalistes ciblés et tués par l'armée israélienne le sont au prétexte qu'ils seraient des terroristes, d'après les éléments de langage des officiels. Cette fois encore, cela n'a pas manqué. L'armée israélienne a reconnu que cette attaque était délibérée, affirmée sans avancée de preuves concrètes qu'Anaïs al-Sharif était un membre du Hamas. D'après The Guardian, la communication de l'armée aurait justifié la bombe en expliquant, citation, qu'il occupait le poste de chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques à la roquette contre les civils israéliens et les forces de Tsahal. Fin de citation. Cette rhétorique du prétendu terroriste dissimulé sous une casquette de journaliste a souvent été utilisée par le régime israélien pour justifier les meurtres de journalistes et limiter au maximum la couverture médiatique des exactions conduites par le régime. C'est en tout cas le point de vue de Yuval Abraham, le journaliste israélien co-auteur du documentaire oscarisé « No Other Land », qui expliquait cette nuit dans un post publié sur le réseau social X cette stratégie de l'armée israélienne. Citation. Après le 7 octobre, une équipe appelée « cellule de légitimation » a été créée au sein du renseignement militaire. Des agents de renseignement recherchaient des informations susceptibles de « légitimer » entre guillemets les actions de l'armée à Gaza, les tirs ratés du Hamas, l'utilisation de boucliers humains, l'exploitation de la population civile, tout ce que vous connaissez. Semer le doute comme méthode pour justifier les atrocités, identifier un journaliste comme un activiste sous couverture blanchit le meurtre de tous les autres journalistes. Et donc, voilà, c'était ce communiqué de l'agence Média Palestine, Média Presse Palestine, que je souhaitais vous porter à votre connaissance. Et puis, je voulais également compléter là par un autre article de l'agence Média Presse, le piège de la reconnaissance d'État. Un nombre croissant d'États, dont le Royaume-Uni, la France et le Canada, s'orientent vers la reconnaissance de l'État palestinien. Bien que cette démarche puisse être utilisée stratégiquement pour faire progresser les droits des Palestiniens, elle comporte également le risque de normaliser le génocide du peuple palestinien à Gaza, tout en stabilisant le statu quo de la domination coloniale israélienne et en freinant le potentiel d'une véritable autodétermination. La plus grande promesse de cette nouvelle initiative de reconnaissance, la précédente ayant eu lieu en 2011-2012, réside dans un front uni pour défier le soutien intransigeant des États-Unis à Israël. Depuis qu'ils sont devenus l'allié principal d'Israël à la suite de la guerre de 1967, les États-Unis ont utilisé leur statut de superpuissance mondiale pour protéger systématiquement Israël de toute responsabilité et pour saper les efforts multilatéraux visant à promouvoir l'autodétermination palestinienne. Plus récemment, le soutien américain à Israël s'est traduit par la livraison ininterrompue d'armes, l'imposition de sanctions contre la Cour pénale internationale pour avoir émis des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens et surtout par 5 vétos au Conseil de sécurité contre un cessez-le-feu. Cette initiative de reconnaissance est le premier effort coordonné d'États européens pour affronter la politique américaine et cet élan est bien nécessaire. Mais leur poussée en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien est non seulement insuffisante, elle contourne aussi les droits inaliénables appartenant au peuple palestinien. Et cet article se poursuit sur la chaîne Média Presse, bien évidemment Média Presse Palestine, que je ne peux que vous inciter à lire. Et puis, dernier élément de ce bulletin de cette agence Média Palestine, saisi, installé, loué, comment Airbnb et Booking.com aident les Israéliens à gagner de l'argent grâce à des terres palestiniennes volées. Une analyse exclusive menée par The Guardian a recensé 760 chambres proposées dans des hôtels, appartements et autres locations de vacances situées dans des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, sur deux des sites touristiques les plus populaires au monde. Pris ensemble, les hébergements répertoriés sur Airbnb ou Booking.com pouvaient accueillir plus de 2000 personnes en août 2024. La villa n'en était qu'un exemple. Tekoa est une communauté résidentielle calme, respectueuse et diversifiée, indique l'annonce. Aucune mention n'est faite des récentes confrontations juste à l'extérieur de la ville, impliquant armes à feu, matraques, couteaux et chiens, qui ont forcé des Palestiniens voisins à quitter leurs terres. Dans un rayon de 6 km autour de Tekoa, au moins 100 Palestiniens ont été expulsés depuis 2023. Le taux de violence et de confiscation de terres dans la région a grimpé en flèche depuis le début de la guerre à Gaza. Et là encore, cet article se poursuit sur le site de l'agence Média Palestine, qu'il est important dont il est important de prendre connaissance. Voilà. Donc c'était les éléments par lesquels je voulais commencer cette chronique. Et je vais poursuivre par deux autres sujets. Tout d'abord, la loi Baptiste. La loi Baptiste, c'est quoi ? Le titre de la déclaration de l'IREP donne un élément de réponse. La loi Baptiste, une loi de Bray pour l'enseignement supérieur. Et voici donc cette déclaration de l'IREP. Donc l'IREP, l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Après 20 ans de réformes destructrices, le gouvernement ouvre grand les vannes de la privatisation de l'enseignement supérieur. L'IREP rejoint les défenseurs de l'université républicaine et appelle à mettre en échec le projet de loi Baptiste et à refonder l'université publique gratuite et libre. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a dévoilé mi-juin un projet de loi de « modernisation » entre guillemets et « régulation de l'enseignement supérieur », aussitôt appelé « loi Baptiste » du nom du ministre. Le texte a depuis été renommé « pour la régulation de l'enseignement supérieur privé », mais sans que sa teneur ne change. Or, le contenu de ce texte est alarmant et appelle une mobilisation générale de toutes celles et de tous ceux qui croient en l'importance d'une université publique, libre, gratuite, exigeante et indépendante. Sous couvert de réguler l'enseignement privé, la loi lui confère une reconnaissance inédite, égale à celle dont bénéficie l'enseignement public. Mais il ne s'agit pas que d'octroyer au privé des compétences du public. Il s'agit aussi de transformer, adapter, entre guillemets, l'université elle-même en un acteur privé parmi d'autres, en faisant sauter les cadres statutaires nationaux. Le monopole de la collation des grades, c'est-à-dire de la délivrance des diplômes nationaux, est de fait aboli. La loi instaure une accréditation d'État accessible au public comme au privé. Parcoursup avait contribué à mettre les formations privées, souvent indigentes, sur un pied d'égalité avec l'université en créant un marché unique de l'enseignement supérieur. Les instituts catholiques en sont les premiers bénéficiaires depuis l'accord Kouchner-Ratzinger de 2009. L'État pourrait contractualiser ses relations avec les établissements privés accrédités. La loi Baptiste est une loi de Bray pour l'enseignement supérieur. Si la loi était adoptée, le secteur privé se verrait bientôt partagé en deux blocs. Un petit groupe hors contrat qui proposerait des formations échappant à tout contrôle et un secteur privé sous contrat qui fédérerait les principaux réseaux d'enseignement privé avec une place de choix pour les établissements d'inspiration catholique. Le secteur public serait condamné à la sous-dotation, aux chicanes et aux campagnes de presse hostiles. L'État entend contractualiser ses relations avec les établissements d'enseignement supérieur public en ne finançant plus les universités que par des contrats d'objectifs, de moyens de performance, sans dotation fixe. Ce serait la fin de l'université entendue comme administration publique dont le budget de fonctionnement repose sur les décisions politiques de la nation. Par ce système de contrat, le rectorat pourrait intervenir à chaque instant dans la vie démocratique et pédagogique des universités. Ce n'est même plus la loi de Bray, c'est le retour à la loi Fallou. La loi retire toutes les limites à l'expérimentation statutaire locale. Elle instaure en fait une indifférenciation entre public et privé, soit par le regroupement d'établissements publics et privés, soit en permettant l'externalisation administrative de certaines facultés et écoles internes qui pourraient fonctionner comme des écoles privées tout en appartenant à une université dite publique. Si ce principe était appliqué, les frais d'inscription dérégulés deviendraient la norme, y compris dans les établissements dits publics. Cette logique est émantinée d'une territorialisation qui rappelle le projet Savary de 1984 qui prévoyait l'indifférenciation statutaire et la constitution de réseaux publics privés locaux. La loi Baptiste, c'est l'application à l'université de ce dont tous les cléricaux et tous les ennemis de l'instruction publique rêvent pour l'école. La seule structure professionnelle de l'enseignement supérieur à avoir donné un satisfecit au ministre est le lobby des établissements privés dits d'intérêt général, c'est-à-dire les établissements portés par des fondations et associations généralement d'inspiration catholique et qui revendiquent de très longue date d'être mis sur un pied d'égalité avec l'Université de la République. Aujourd'hui, le gouvernement entend livrer la connaissance, la science et la technique aux intérêts privés, souvent confessionnels. Mais cette loi est aussi l'aboutissement de 20 ans de régression. On ne saurait défendre le statu quo ni prôner le retour à un âge d'or marqué par l'inégalité et le mandarinat. L'heure est venue de renouer avec les principes fondateurs de l'idée d'université. L'université doit être strictement gratuite et financée par le budget de la nation avec une dotation à la hauteur des besoins, distribuée de façon égalitaire et transparente. Toute forme de frais d'inscription, cotisation, vie étudiante ou autre doit être abrogée. Seule l'université de la République doit coller les grades reconnus par l'État et les conventions collectives. La liberté de l'enseignement et de la recherche sont absolues. Elles ne peuvent être garanties que par un budget sincère et par l'indépendance des universitaires. Seul l'emploi statutaire apporte cette indépendance. Mais d'autres garanties sont nécessaires contre les pouvoirs politiques, économiques et religieux. Cela passe, entre autres, par la fermeture des facultés concordataires, là où elles existent encore, mais aussi par une refonte du financement de l'alternance et de la formation continue. L'accès aux formations supérieures doit pouvoir se faire tout au long de la vie. Cela implique des places d'étudiants supplémentaires et pour cela la création de nouvelles universités dotées de résidences étudiantes réparties sur tout le territoire. C'est à cette condition que Parcoursup et Mon Master pourront être fermés. Au-delà, l'université a besoin d'un plan de recrutement et de titularisation massif afin de retrouver des taux d'encadrement permettant de maintenir l'exigence et la qualité des formations. Cette ambition démocratique requiert également de reconnaître un droit à la réorientation pour les étudiants qui changeraient de vocation. Enfin, une fraction importante de l'argent de la formation continue doit être fléchée pour permettre l'accès aux formations universitaires aux travailleurs tout au long de leur activité professionnelle. L'accès aux formations supérieures, quelle que soit l'origine sociale des étudiants, implique que la nation consente au versement d'une allocation d'autonomie étudiante d'un montant substantiel qui répond à la fois à une exigence sociale et à un impératif d'émancipation vis-à-vis du milieu familial. Cet objectif impose également un plan de développement des œuvres universitaires, notamment en matière de logement. Il convient enfin de mettre en œuvre un pré-recrutement dès le premier cycle dans les métiers stratégiques, enseignement à rebours de l'actuelle réforme du CAPES, santé, énergie, aménagement du territoire. En conséquence, l'IRELP, l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, apporte son soutien aux universitaires et aux citoyens engagés pour ce travail de refondation. Voilà. Donc c'était la déclaration de l'IRELP sur cette loi Baptiste pour laquelle il faut effectivement tout faire pour qu'elle ne soit pas adoptée. Voilà. Et puis, donc dernière partie de cette chronique, je voulais en venir à éclairer un petit peu un aspect un peu méconnu de l'activité de la libre pensée à travers les Entraide et Solidarité, qui est une instance, une association de la libre pensée qui est extrêmement importante et qui fait entre autres un travail de solidarité, dont je vais vous donner une lecture du message qui a été transmis au congrès de la libre pensée, donc par Abdourahmane Sissoko, qui est donc de la Marche des Solidarités. Bonjour, moi c'est Abdourahmane, l'un des délégués du collectif des jeunes de Belleville. On a commencé depuis septembre 2023 où nous étions 200 jeunes mineurs isolés avec des tentes dans le parc de Belleville. Nous n'étions pas reconnus mineurs pour le premier passage dans les centres d'évaluation et on a été obligés de déposer un recours auprès du juge des enfants. Comme le recours, ça prend beaucoup de temps, de 6 mois à 1 an, on ne savait pas quoi faire. Il y a des soutiens qui se sont rapprochés de nous. Ils nous ont dit « Vous pouvez rester là ». Attendre votre recours, vous avez le droit de le faire. Mais si vous vous réunissez, ça va donner une image à votre situation. Ce n'est pas sûr que ça fonctionne, mais peut-être que les choses vont s'améliorer. À ce moment-là, on a désigné des délégués pour coordonner la situation et s'organiser en collectif. On a fait la première occupation dans la mairie du 20e et on a obtenu des places d'hébergement. Ça a été une première victoire du collectif. Avec le collectif, on a appris que si tu attestes que tu es en attente de ce recours, tu as le droit d'être scolarisé. Tu as le droit d'avoir un lieu pour dormir et tu as le droit d'avoir une prise en charge pour la santé. Et nous tous, on ne le savait pas. On traînait juste derrière les associations pour savoir où aller, pour manger, pour se laver. Mais là, on a commencé à se déplacer au rectorat pour dire « Nous, on veut aller à l'école ». C'était très difficile d'avoir un rendez-vous. Il n'y avait même pas de créneau pour les mineurs non accompagnés. À travers la lutte du collectif, on a manifesté devant le rectorat et maintenant ils ont ouvert un créneau pour les rendez-vous. Ils demandaient des documents qu'on ne pouvait pas avoir puisqu'on n'est pas hébergé. Ils demandaient un certificat d'hébergement. Alors on a lutté aussi pour ça et on a réussi à ce qu'ils annulent cette demande de certificat. Depuis notre création jusqu'en décembre 2024, juste avant l'occupation de la Gaîté Lyrique, le collectif avait réussi à faire héberger 1000 jeunes et à faire scolariser 300 jeunes. La dernière occupation, c'était la Gaîté. Là-bas, vous étiez témoin. Ça a donné beaucoup plus de visibilité au collectif. Bien que ça se soit mal terminé, puisqu'on n'a pas eu l'hébergement, ça nous a donné beaucoup plus de force. À Paris, depuis l'expulsion de la Gaîté, les jeunes sont dispersés parce qu'il y a eu beaucoup de répression. Il y a des jeunes qui ont eu des OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français, illégales pour les mineurs. Il y a eu beaucoup de peur, mais avec les délégués et puis ceux qui avaient le courage de se mobiliser, à travers nos communications et nos actions, on a continué, on n'a pas abandonné ceux qui avaient subi cette répression. On a aidé pour faire des papiers, pour faire des passeports, pour préparer les avocats pour la défense. Il y a 13 OQTF qui ont été annulés sur 24. Il y en a d'autres qui sont en attente d'audience au tribunal des enfants. On essaye de faire au mieux. Nous, on s'adressait à la mairie de Paris, parce qu'on pensait qu'ils étaient à nos côtés. Mais après la Gaîté, ils n'ont rien fait. On a essayé de les rencontrer, ils n'ont pas accepté. Alors on a fait une action à la maison des réfugiés, là-bas, pour les empêcher de faire un événement. On nous a proposé une rencontre. On a parlé des problèmes de places d'hébergement, des problèmes d'accès aux soins, de notre demande de passe Navigo pour les transports. La conseillère de Paris, Léa Filoche, à l'époque, elle était d'accord pour les 40 places d'hébergement. On a eu un rendez-vous un mois après, mais c'était de fausses promesses parce que personne n'a eu d'hébergement. Donc on est parti énervé à la deuxième rencontre contre ces gens qui ne tiennent pas leur parole. On leur a demandé de prendre tous les jeunes qui étaient dehors, ils ont encore refusé. Ils ont dit qu'ils n'avaient que 30 places et nous, on est 100 jeunes qui sommes dehors. C'est notre difficulté actuellement. Maintenant c'est l'été, mais les jeunes sont dehors. Ils sont en situation de vulnérabilité. Quand on parle d'hébergement, on parle de situation de vulnérabilité, surtout quand il pleut, quand il neige. Il y a toujours des complications, mais on ne baisse pas les bras. Quels que soient les problèmes, le collectif essaye de visibiliser la situation des mineurs, ici à Paris et n'importe où en France. Il y a des complications dont vous avez entendu parler pendant la réunion de ce soir. Il existe des lieux d'accueil qui peuvent nous accueillir gratuitement pour se laver, mais là aussi l'accès devient compliqué. Nous, notre force, c'est la mobilisation, visibiliser la situation pour que les gens voient ce qui se passe. Et dans plusieurs villes de France, il y a des collectifs qui se sont formés et qui sont même venus à Paris pour nous rencontrer pendant l'occupation de la Gaîté Lyrique. L'image est sortie. Ils ont pris exemple sur nous. Maintenant, il y a des collectifs à Lyon, à Marseille, à Rouen, à Besançon, à Montpellier, à Lille et aussi à Toulouse. Le collectif de Rouen a fait une occupation devant la préfecture pendant 2 mois et ils ont obtenu l'hébergement, mais avec des conditions un peu désagréables. On a prévu demain, au nom de la coordination, d'aller à Rouen pour leur donner un coup de main, à travers notre expérience et avec nos soutiens là-bas. On est même parti à Lille au mois de mai pour faire une rencontre de la coordination. Il y avait beaucoup de villes qui sont venues. On a fait une coordination des mineurs au niveau national on a préparé notre première action commune pour le 20 juin. Partout où il y a des jeunes là-bas, ils ont manifesté le même jour dans les départements, devant les rectorats, en charge de la scolarisation. Et partout en France, là où il y a le collectif, nous nous organisons pour mettre en image la situation des mineurs non accompagnés. Juste avant les vacances, il y avait 120 jeunes qui étaient en attente d'affectation dans les lycées publics. Au nom du collectif, on s'est organisé pour rassembler les dossiers. Ils ont retardé toutes les affectations, sauf celles des jeunes qui viennent du collectif. On a manifesté devant le rectorat. On a interpellé, le défenseur des droits, au moins pour mettre la visibilité sur la chose. Du coup, ils ont sorti 73 affectations. Il y en a d'autres qui restent en attente, qui voudraient préparer des CAP. Alors on prévoit une manifestation avant l'ouverture des centres de formation et on veut des places pour les jeunes qui restent. On souhaite qu'il y ait d'autres villes qui n'ont pas encore de collectif et qui puissent s'organiser pour faire eux aussi un collectif et qu'ils adhèrent à la coordination. Partout où il y a des mineurs isolés, on pourra en parler, tout le monde sera au courant. Les jeunes mineurs isolés étrangers qui viennent d'autres pays, de l'Afrique et du Maghreb, ils ont une situation compliquée. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe avec notre situation. Du coup, si vous avez votre association implantée dans ces départements, et il s'adresse donc à Entraide et Solidarité, donc dans ces départements, Lyon, Marseille, Rouen, Besançon, Montpellier, Lille, Toulouse, vous pouvez aussi les contacter là-bas pour leur amener de l'aide, parce que là-bas, ils en ont tellement besoin. parce que là-bas, ce n'est pas comme à Paris. Ici, on a plus d'occasions de rencontrer les associations qui viennent vers nous, qui voient notre lutte, tandis que là-bas, pour eux, c'est un peu caché. C'est pour ça que l'on a fait la coordination, car nous sommes tous dans la même situation. Partout où on parle des jeunes mineurs du parc de Belleville, on va parler de la coordination. Et puis, merci sincèrement, parce que quand on était à la Gaîté, vous avez fait un gros don pour nous. Ça nous sert encore jusqu'à présent. Ce don-là, pour nous permettre d'acheter aux jeunes à manger quand on va dans les AG, et vous allez passer le message à tous ceux qui vont venir pour votre congrès. Merci, très sincèrement. Voilà. Donc c'était le message de la marche des solidarités et donc Abdourahmane Sissoko, au congrès de la Libre Pensée et un message adressé à l'association Entraide et Solidarité. Nous ne manquons pas de vous informer régulièrement de cette activité, parce que la Libre Pensée, bien évidemment, soutient ce collectif qui s'est constitué. Et c'est extrêmement important, parce qu'on se rend compte à quel point la situation de la jeunesse globalement est absolument inadmissible, mais que le sort de ces mineurs isolés qui sont dans les rues de Paris et de plein de villes, et y compris parfois de petites villes en province, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible pour notre pays. Je reviendrai bien évidemment, comme je l'ai indiqué au début de cette chronique, sur le déroulement du congrès de la Libre Pensée, qui s'est tenu la semaine dernière dans le centre Cap Découverte, c'est le nom qui est donné à cet endroit, qui était à l'origine une mine qui a été fermée, une mine à ciel ouvert, et qui est un lieu très intéressant pour y amener famille, enfants, etc., et qui dispose de locaux qui ont permis à notre congrès de se tenir dans d'excellentes conditions. Nous y reviendrons sur le déroulement de ce congrès, qui a été un congrès que je dirais marqué par la transmission. Nouveau président de la Fédération nationale de la libre pensée, Benoît Steckenberger, succède à Jean-Sébastien Pierre. Et puis également toute une série de nouveaux entrants dans la commission administrative nationale et à des tâches de responsabilité qui vont donc modifier complètement l'activité et le dynamisme de notre organisation qui a, je pense, donné une maison en très bon état à ceux qui aujourd'hui, à cette nouvelle équipe que je vous présenterai dans de prochaines chroniques. J'essaierai effectivement d'obtenir une interview de Benoît et puis également une interview, puisque je parle souvent de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée qui, de manière tout à fait indépendante du congrès de la libre pensée, a renouvelé également ses instances avec une présidente qui succède à Jean-Marc Chiappa, dont j'ai souvent parlé à ce micro. Cette nouvelle présidente, c'est Isabelle D'Artagnan, une universitaire spécialiste du Moyen-Âge. Et là également, j'ai a priori son accord pour une interview qui interviendra dans les prochaines semaines, qui se fera en direct ou enregistrée selon les circonstances qui permettront cette interview. Mais ce sera tout à fait important de voir comment cette nouvelle présidente de l'IRELP envisage la poursuite de l'activité de l'IRELP. Et par le discours qu'elle a prononcé devant la colonne de la paix située à Carmaux, dans le parc Jean Jaurès, lors de la cérémonie qui s'est déroulée pendant le déroulement du congrès, c'était un discours de la plus grande importance. Là encore, j'utiliserai peut-être d'ailleurs son discours tout parti pour une prochaine chronique. Donc, je vous donne maintenant rendez-vous pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio Libre en Périgord. Ce sera lundi prochain à 11h30, comme chaque semaine. Bonne semaine.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.